De main de maître, par Frederick Irving Anderson. Le numéro 142, sur le côté sud de la rue, était un hôtel particulier avec véranda et sous-sol à l'anglaise, survivant de l'époque Van Beaver, époque à peine révolue où Manhattan était encore une île habitée par des colons qui aimaient avoir leur coup des franches et possédaient le sens du confort matériel. Depuis, les quartiers chics de la ville se sont déplacés vers le nord. Mais le numéro 142 et quelques autres survivants opiniâtres, avec leurs fenêtres à vitraux étincelants, leurs escaliers d'accès bien nets et leurs sonnettes à cordons, continuent à s'accrocher au terrain, bousculés sur leurs ailes et leurs arrières par des maisons de rapport arrogantes et des hôtels dorés sur tranche. Le numéro 142 était occupé par la veuve de feu Amos P. Huntington. Le défunt, un petit homme insignifiant et inoffensif, n'avait réussi qu'une seule fois à faire parler de lui dans la presse, à l'occasion d'un accident qui l'envoya dans l'autre monde. Le laboratoire où il fabriquait du caoutchouc synthétique sauta, et lui avec. Sa veuve était une petite chose fragile comme une porcelaine de Saxe. Preuve tangible de son rang, elle se promenait dans un magnifique coupé couleur prune, traîné par deux fringantes acnées beaucoup trop fastueuses pour aujourd'hui, et sur le siège trônaient un cocher et un balai de pied, tous deux en livrée prune, l'un et l'autre austère, entre deux âges, bien rasés et pâles de cette pâleur qu'acquièrent les serviteurs de haute volée à vivre la plupart de leur existence dans la demi-obscurité des entresols à l'ancienne mode et des communs. Quelques années plus tôt, tout un côté de rue à deux pas de Central Park avait donné le signal de l'exode. L'une après l'autre, les pierres brunes du côté nord, le côté ensoleillé, lequel faisait face au numéro 142 et à ses braves compagnons, fut remplacé par des écuries de briques rouges à toit pointu et à large porche. Pendant une courte période, l'ancien régime fut contraint de respirer l'ammoniaque et les embrocations pour chevaux et d'assister aux gambades et aux cabrioles de ces princes des équidés que leurs palefreniers, natifs des faubourgs londoniens, emmenaient chaque après-midi à Central Park, s'exercer à l'amble et au traquenard, afin de faciliter la digestion de maîtres et de maîtresses trop bien nourris. Puis les montures incomparables disparurent et furent remplacées à leur tour par des artistes non moins incomparables qui percèrent des fenêtres sur le mur nord d'anciens greniers à foin, imprégnèrent l'air des odeurs de térébenthine et d'argile humide et, pour la plupart, dînèrent prosaïquement à la crèmerie du coin. Alors la ville, comme une forêt touffue envahissant un pâturage abandonné, engloutit les artistes et leurs ateliers et fit place nette à des garages disgracieux et des cliniques pour moteurs malades. Le côté ensoleillé de la rue fut souillé par de glissantes flaques d'huile, l'air alourdi par l'odeur de l'essence et des pneumatiques. Sur le trottoir, à toute heure du jour et tard dans la nuit, les entrailles détraquées des autos en panne jonchaient le sol, tandis que les mécaniciens barbouillés de cambouis bricolaient et essayaient les moteurs. À travers toutes ces vicissitudes, la vieille garde tenait bon. Le 142 et ses compagnons semblaient plus immaculés que jamais, comme s'ils avaient voulu protester contre la saleté environnante. Mrs. Huntington, outre ses agressions contre sa paix domestique, avait connu l'outrage supplémentaire d'être traînée devant les tribunaux par les compagnies d'assurance de son mari, lesquelles arguaient que toute personne assez téméraire pour plaisanter avec le caoutchouc synthétique était un candidat au suicide. Par deux fois, la petite veuve s'était attiré les sympathies du jury qui, à la suite de deux procès, avait condamné les compagnies à payer la totalité du montant de la prime, un quart de million de dollars. Juste en face, au numéro 143, il y avait un atelier de réparation de voitures. Il était aussi crasseux, aussi malodorant, aussi bruyant que ses voisins. Cependant, un esprit observateur mis en branle par un accès de curiosité n'aurait pas manqué de remarquer que tous les mécaniciens étaient jeunes, qu'il mesurait 1m83 et pesait 84 kilos. Sans qu'on s'en doute, le numéro 143 était une succursale de la police. Il faisait partie d'une série de postes soigneusement camouflés que le commissaire adjoint Parr, le grand chasseur d'hommes de Center Street, avait installé par toute la ville dans les endroits les plus inattendus. Le crime est sporadique, mais il est soumis à des influences locales et professionnelles. Ici, des hommes à la dévotion de Parr surprenaient les secrets des oiseaux de nuit, habitués d'Automobile Alley. Dans Broad Street, il entretenait un bureau de coulissier marron abritant des garçons de course et des employés à puissante carrure. À Maiden Lane, dans une raffinerie de platine, siégeait un vieil alchimiste ridé qui pouvait lui donner immédiatement le signalement chimique de tout lingot de platine existant. Dans la 4e avenue, il avait créé un insignifiant comptoir de courtier en soie brute, une marchandise qui attire les aigres fins comme le miel attire les mouches. Enfin, à Central Park West, il dirigeait en sous-main, avec l'aide d'un lieutenant compétent, une officine de sciences occultes où, à l'occasion, on ne dédaignait pas de faire parler les tables ou écrire les revenants et où, de temps à autre, un message était reçu de l'au-delà. Plus d'un pauvre diable qui languissait sur la paille humide des cachots se demandait comment il avait été pincé aussi facilement. Il ne devait jamais le savoir et pourtant c'était simple. Les policiers n'avaient pas eu de peine à le découvrir puisqu'ils étaient ses voisins. Par un matin d'hiver, à 10 heures, une assez grosse voiture tomba en panne et s'immobilisa, moteur calé, le long du trottoir du numéro 145. Un chauffeur, un homme d'1,83 m et pesant, disons, 84 kg, descendit du véhicule, ouvrit le capot et resta là, regardant le moteur malade avec le regard malheureux d'un toubib devant un cas dépassant les limites de sa compétence. Un mécanicien roux, mesurant 1,83 m et pesant 84 kg, s'approcha d'un air intéressé et compatissant. Il mit sa tête sous le capot. Le chauffeur se pencha et lui dit à l'oreille « Le chef fait un rapport sur le 142 ». Le mécanicien rétablit la connexion d'une des bougies, remettant ainsi la voiture en état de rouler en cas d'urgence. Il sectionna un ticket bleu en deux, en le déchirant le long d'un pointillé, en tendit une moitié au chauffeur et attacha l'autre au pare-brise de la voiture avec un solide cordonnet. Le chauffeur s'en alla d'un pas nonchalant vers l'arrière-salle, lieu de rendez-vous commun au chauffeur et au mécanicien, qui avaient tôt fait connaissance les uns avec les autres. Le mécanicien se remit à bricoler. Du coin de l'œil, il étudiait la respectable demeure d'en face, se demandant vaguement qu'elle saute devant à la girouette de Center Street avait placé la petite veuve en porcelaine de Saxe sous la surveillance de la police. Une heure plus tard, Mrs. Amos Huntington descendait les marches et prenait place dans son coupé. Elle avait de petits pieds chaussés de fines bottines à longue tige, une jupe modérément courte, un teint très pâle, des yeux bleus. Ses cheveux avaient cette nuance particulière d'acajou qui ne peut être conservée que par des soins constants. Elle était en grand deuil. Ses vêtements d'une correction cossue faisaient penser sur le champ à l'un de ces magasins chics situés à deux pas de chez elle et qui se consacrent exclusivement à vêtir les affligés. Son balai de pied l'enveloppa d'une couverture en peau de taupe et il monta sur le siège. L'attelage partit au petit trot, dans un style parfait, comme au rythme de quelques gavottes surannées. Le mécanicien roux, après s'être gratté la tignasse d'un doigt crasseux, décide alors qu'il était nécessaire d'essayer le moteur de la voiture. Il mit en marche ce moteur hypochondriaque et partit dans le sillage du coupé couleur prune, l'oreille tendue comme pour mieux en écouter le ronronnement de la mécanique. Au moment où le coupé couleur prune allait s'engager dans le tourbillon de Columbus Circle, les signaux lumineux lui intimèrent de s'arrêter. Les chevaux stoppèrent, tandis que les autos venaient de presser de tous côtés dans un crissement de frein. Le ticket bleu, toujours accroché au pare-brise de la voiture qui suivait le coupé, attira l'attention d'un piéton en derby brun qui fit halte au bord du trottoir. Comme par hasard, le regard de cet homme rencontra celui du mécanicien roux. Bien qu'il fît très froid, il ôta son chapeau et s'épongea le front. Le mécanicien roux sortit aussitôt de sa poche un grand mouchoir de soie rouge, se moucha et considéra d'un air absent le coupé couleur prune. Brusquement, les vannes de la circulation se rouvrirent et les véhicules reprirent leur course. Mais le mécanicien roux avait cessé de s'intéresser au coupé couleur prune. Il tourna vers l'est et, 10 minutes plus tard, était de retour au numéro 143. « Quelqu'un nous suit-il, William ?» demanda la veuve fragile dans son acoustique. « Non, madame, » répondit William, le valet de pied, du coin de la bouche, sans bouger les lèvres, dans le cornet placé à hauteur de son épaule. « Il y en avait un, » ajouta-t-il d'un ton encourageant, « le mécanicien d'en face, mais il nous a lâchés au carrefour. » Mrs. Huntington ne se laissait pas leurrer par une fausse impression de sécurité. Depuis 12 ans, elle faisait preuve de la plus grande circonspection. Elle ne partait jamais en voiture sans poser tôt ou tard la rituelle question « Quelqu'un nous suit-il, William ?» Parfois, le très compétent William croyait sentir une promesse de filature, mais cette promesse n'était jamais tenue. Toujours, la personne ou le véhicule qui avait attiré son attention soupçonneuse se perdait dans le flot de la circulation. Tout comme venait de le faire le mécanicien roux, qui, après avoir un moment suscité l'intérêt de William, avait disparu. Le même après-midi, deux hommes jeunes, porteurs de lourds instruments, se présentèrent au numéro 142 pour vérifier le compteur électrique. Ils se servaient de règles à calcul, de tables de logarithmes et d'appareils brillants qui jonchaient les marches du sous-sol. Les domestiques s'étaient approchés d'un air intéressé et leur tendaient obligeamment, quand ils y étaient invités, ces instruments dont la surface nickelée avait été spécialement préparée pour recueillir les empreintes digitales. Le lendemain, les employés du téléphone demandèrent et reçurent l'autorisation de monter sur le toit pour démêler des fils. Un inspecteur du service des eaux, un type très amusant, passa l'inspection des robinets pour rechercher les fuites. Une contestation étant survenue dans quelque obscure administration au sujet d'un empiètement de l'immeuble sur l'alignement, un jeune homme alla ouvrir toutes les fenêtres pour mesurer avec une règle les rebords en saillie. À un certain moment, tandis qu'il se penchait à la croisée du salon, il demanda poliment à Mrs. Huntington de bien vouloir lui passer sa loupe. La petite veuve s'exécuta de bonne grâce, prenant tout à fait inconsciemment le verre avec la main dans laquelle elle tenait son mouchoir de dentelle. Au moment de partir, il lui offrit son stylo pour signer sa feuille de contrôle, mais elle ne vit pas son geste et utilisa son propre porte-plume. Le numéro 142 reçut encore d'autres visiteurs, tous très polis, tous très innocents, du moins en apparence. À la fin de la semaine, Mr. Parr possédait un dossier complet sur la maîtresse de maison et sur ses gens, jusque dans les plus infimes détails. Si la petite veuve avait pris un soin jaloux à mettre son intérieur à l'abri des indiscrétions, elle eût été frappée d'horreur en voyant avec quelle facilité les limiers au regard aigu de Parr avaient mis son logis sens dessus-dessous aux fins de rassembler les éléments du dossier que constituait le commissaire adjoint. Il n'avait échoué que sur un point, il ne ramenait pas les empreintes des petits doigts roses de la pathétique veuve, encore que la domesticité eût fait preuve de la plus grande obligeance sous ce rapport. Quant à la loupe, le laboratoire de Center Street n'avait trouvé sur sa surface polie qu'une réplique floue de la fine dentelle du mouchoir. Je sais que les auteurs modernes de romans policiers ont pris l'habitude de mettre en scène des flics à l'esprit obtus, dit le commissaire Parr en s'installant dans son fauteuil favori, devant le bureau d'Armiston. Un gros flic bien niais ne rate jamais son effet. Il lança un regard venimeux à Oliver qui, caressant son unique boucle grise, leva les yeux de son travail, mais sans daigner répondre. Un jeune homme plein de talent, poursuivit lourdement Parr, pourrait se faire un nom en dotant l'un de nous d'un peu d'intelligence. Il choisit un cigare dans la boîte de carton proche du coude d'Oliver. « Je me rends compte, dit-il, en arrachant le bout avec ses ongles, qu'un préjugé tenace s'y oppose. Mais on pourrait essayer, on pourrait essayer. » D'un geste de magicien, il frotta une allumette, alluma son cigare et en tira quelques bouffées tout en observant Oliver d'un air méditatif entre ses paupières à demi fermées. Armiston, l'évanescent écrivain, ne figurait qu'un des aspects de la souplesse d'esprit ahurissante du commissaire adjoint Parr. Dans la plupart des cas, ce dernier pratiquait la logique et non l'intuition. Il avait acquis une longue expérience des us et de l'habitat du gibier qu'il traquait. Il posait ses pièges sur ce qu'il savait être le bon terrain de chasse. Puis il attendait calmement que les rôdeurs se fissent prendre. Mais parfois ses souricières restaient vides. Pas un seul craquement de brindilles ne venait récompenser le trappeur de sa longue veille sur les pistes connues. Alors, comme son ancêtre, le chasseur de bêtes sauvages, il se retirait furtivement pour consulter le sorcier. Le sorcier, c'était Armiston. Autrefois, Armiston composait de passionnants récits policiers. Mais un jour, il avait été trop réaliste. Copié au pied de la lettre par un rusé bandit, sa fiction était devenue réalité, avec un crime pour dénouement. L'hectique auteur avait eu une sensation si désagréable qu'il avait décidé de prendre sa retraite. C'est dans cette retraite que le commissaire Parr, aux mille yeux, était venu le trouver. Si la fiction était devenue réalité, pourquoi la réalité ne deviendrait-elle pas fiction? Ainsi raisonnait Parr, qui ne perdait jamais de vue le côté pratique des choses. Sa méthode était simple. Un mystère insoluble ou une intrigue difficile à dénouer devait réveiller les facultés endormies de l'écrivain évanescent, comme le son de la trompette revigore un cheval de cavalerie réformé. part avait coutume de préparer la scène du théâtre. Il plaçait les personnages, brossait les décors. Il soulevait le rideau sur un scénario figé, et de son air le plus insinuant, invitait Armiston à s'y mettre. Le résultat s'était parfois avéré surprenant. Il suscitait toujours, chez le réaliste policier, un véritable respect mystique. Une fois mise en branle, l'imagination d'Oliver avait une fécondité prodigieuse. Poussant un soupir, le commissaire part éleva son pied gauche, encastré dans un brodequin pointure 44, et le posa sur son genou droit. Il frappa la semelle d'un air significatif. C'était une semelle neuve, une vraie dalle en fait de semelle, toute hérissée de crampons. Elle n'avait visiblement pas été faite pour la marche en tapinois, mais pour l'usage. « Elle me coûte $2.75, dit-il d'un ton lugubre. « Autrefois, je m'en tirais avec 50 cents. Même la détection du crime revient plus cher qu'en bon vieux temps. « Le cuir à semelle !» s'exclama-t-il avec quelque véhémence. « Le cuir à semelle, voilà ce qui joue un rôle primordial dans mon métier. Chaque fois que j'embauche un homme, je regarde ses pieds, non sa tête. » Il fit une pause. Par son silence obstiné, Oliver semblait réserver son jugement. « D'ailleurs, dit Parr sur un ton confidentiel, nous ne détectons pas le crime se détecte de lui-même. »« Dommage que les criminels ne soient pas aussi prévenants, » observa Oliver. « Mais si, mon cher, ils le sont, et c'est justement là le point important, » reprit Parr, qui n'était pas avare de ses paroles. « Ils se détectent eux-mêmes, Parr ?»« Oui, absolument, inévitablement, tout au moins en fin de compte. »« Bien entendu, le facteur temps intervient. » « Mais nous n'avons qu'à attendre, » expliqua le policier d'une voix suave. « Tôt ou tard, la canaille retourne à son antre. J'ai un homme assis sur le pas de sa porte, qui l'attend. » Parr eut un sourire puéril. « Vous admettrez qu'il faut une certaine dose d'intelligence de votre part pour trouver la bonne porte, » dit Armiston. « Pas du tout, » répondit Parr. « C'est le moindre de nos soucis. Ils nous donnent eux-mêmes leur adresse. » Il rit sous cap. Armiston se replongea dans son grimoire. Il avait l'air blessé d'un enfant crédule que l'on fait marcher. « Tout chien à sa puce !» dit Parr, adressant un signe de tête solennel au bout d'un grassouillet placé dans un coin du bureau. « Toute canaille a son mouchard. Cette règle ne souffre pas d'exception, Oliver. » Il se retourna vers Armiston. « Sans les dénonciations que je trouve sur ma table chaque matin, je n'aurai plus qu'à fermer boutique et marquer ce jour-là d'une pierre blanche. » Et il ajouta d'un ton bourru, « Je n'ai pas eu un seul jour de congé en 20 ans. Et le loup solitaire, l'homme qui n'a pas de copain ?» Parr eut un reniflement dédaigneux. « Il se vante, » dit-il avec aigreur, « il se vend lui-même. Il se dénonce, ou il en dénonce un autre, ce qui revient au même, à la longue. Des échecs ? Nous n'avons pas d'échecs. Des enquêtes inachevées, oui. Tôt ou tard, quelqu'un jase. On me prévient, je suis là pour ça. » Il se frappa la poitrine avec force et dit gravement, « Laissez-moi vous donner un exemple. Avez-vous entendu parler de Sophie Long ?»« Non, je ne pense pas. Elle n'est pas de votre temps. » Armiston secoua la tête. Le nom ne lui disait rien. Cependant, il y trouvait une résonance piquante qui provenait, soit de la combinaison accidentelle des sons, soit de la manière dont Parr l'avait prononcé. Ému par ses souvenirs de jeunesse, le limier reprit. « Autrefois, nous chargeons nos brillants débutants de l'affaire Sophie Long. C'était comme à la caserne. Lorsqu'on envoie une jeune recrue chercher la clé du champ de manœuvre, un tel objet n'existe pas. » Il rit. « Une canaille légendaire. C'est très intéressant, » s'exclama Oliver en faisant craquer ses articulations. « Légendaire est le mot juste, » dit le commissaire. « Personne d'entre nous l'avait jamais vue. Nous ne la connaissions que par ses hauts faits. Lorsque nous ramassions une bûche, nous disions « C'est Sophie. » Quand un coup astucieux était fait, nous disions « C'est Sophie. » Nous disions même que Sophie signait son travail sérieux comme tout grand artiste. Finalement, dit Parr, en mettant ses mains dans ses poches et en s'étirant, nous classions l'affaire Sophie Long au titre des enquêtes inachevées. Il regarda Armiston de ses petits yeux furieux et attendit. Armiston lui aussi attendait. « Sophie vient de se manifester à nouveau, » dit Parr d'une voix douce. « Mais notre main, pas encore, mais ça ne tardera pas. Un mouchard ? Naturellement, qui d'autre ? Ne vous ai-je pas expliqué? Mais qui l'a dénoncé? » Parr lui lança un regard blessé. Qui? Est-ce que diable je sais? Est-ce que je m'en soucie? Une lettre anonyme, grogna-t-il. Elle tombe sur mon bureau comme la douce rosée du ciel. Si je cessais d'en recevoir, je serais réduit au chômage. Le fait est, ajouta-t-il avec un sourire bizarre, que sur mes vieux jours, je me suis juré de prendre moi-même en main l'affaire Sophie Lang. Vous ne trouvez pas ça drôle, Oliver ? Mais c'est toi, ce n'est pas un gibier inaccessible. Sophie, c'est... Il fit une pause, comme un acteur sûr de son effet. C'est Mrs. Huntington. La veuve ? La veuve aux primes d'assurance ? Parfit oui de la tête, ses yeux brillaient. Armistone s'enfonça confortablement dans son fauteuil et dit d'un ton dégoûté « Vous ne croyez pas cela, Parr ?»«
Je ne le crois pas, j'en suis sûr. »«
Il y a des années que je la rencontre un peu partout. Elle est éminemment respectable, » protesta Oliver.
« Sophie le serait, » reconnut Parr.
La fatuité dont Parr faisait preuve irrita Armistone. « Y a-t-il une raison spéciale qui vous fasse penser à Sophie ?»«
Oui, un quart de million de dollars. »
dit Parr en pouffant.
« Excusez du peu, »
fit Oliver d'un air sarcastique. Et comme pris d'une inspiration subite, il demanda « L'a-t-elle signé ?»« Vous avez dit que Sophie signe ses œuvres, ou plutôt les signait. »«
Il n'y a pas un seul défaut dans sa cuirasse. C'est la signature habituelle de Sophie. L'affaire est claire comme de l'eau de roche. Elle a déjà gagné les deux procès que lui ont fait les gens de l'assurance,
notre petite veuve précautionneuse.
Ils avaient mis le fardeau de la preuve à sa charge. » « Il n'est pas de fardeau assez lourd pour Sophie. »
Il eut un gros rire.
« Elle n'a pas encore pu s'emparer du magot.
Il faut qu'elle attende l'expiration d'un délai d'appel. »
Les assureurs ne réussiront qu'à soulever l'opinion contre eux en s'attaquant ainsi à une pauvre femme sans défense.
« Femme sans défense, c'est bien le mot. » Et Parr fut secoué d'un nouvel accès d'hilarité.
« Lui avez-vous rendu visite ?» demanda Armistone.
« Naturellement, tout le monde lui a rendu visite. Claire comme de l'eau de roche, trop claire. »
« Voilà bien, Sophie. Les méthodes ordinaires ne donnent rien avec elle, » dit le commissaire.
« C'est pourquoi je suis venu vous trouver. Je pensais que vous aimeriez peut-être entreprendre une petite enquête psychologique. »
Baissant instinctivement la voix et jetant un coup d'œil circulaire comme pour s'assurer que les murs n'avaient pas d'oreilles, le commissaire expliqua qu'il avait créé sous un faux nom, dans Central Park West, une officine de spiritisme afin d'avoir la possibilité de s'assurer, le cas échéant, des services de l'au-delà.
De plus, révéla-t-il à Oliver, les spécialistes, qui dans ce cas servent d'intermédiaires avec l'autre bord, sont à même de donner, grâce aux liens qu'ils ont entre eux, des consultations d'un ordre plus terre-à-terre. Les membres de cette sorte de confrérie peuvent en effet, à l'occasion, déterrer, pour ceux qui les consultent, le passé plus ou moins fâcheux de n'importe quel individu encore de ce monde. Mais ils avaient en l'occurrence délivré un parfait certificat de bonne vie et mœurs à Mrs. Huntington. En outre, il était allé lui-même fourrer son nez dans l'intimité sacrée du numéro 142 la semaine précédente, sans résultat. Excepté pourtant un fait purement négatif, la pathétique petite veuve avait évité de laisser les empreintes de ses bouts de doigts roses sur ses instruments enregistreurs soigneusement préparés. Parr voulut bien confier à son ami qu'il avait créé une nouvelle entreprise, le lavage des carreaux. L'un de ses meilleurs techniciens nettoyait une fois par semaine les vitres de numéro 142. Il y avait aussi le mécanicien Roux et ses satellites, ainsi que, à l'insu de ce dernier, deux flâneurs insouciants qui surveillaient le pâté de maison. L'emploi du temps de Sophie était soigneusement épluché.
« Quel est son genre, Parr ?» demanda Armistone lorsque Parr eut terminé.
« Tous les genres. Sophie n'est pas difficile, » dit Parr. Il ajouta avec un regard absent.
« J'ai dans ma collection un presse-papier avec un cheveu humain et des empreintes digitales. J'ai toujours pensé que j'aimerais voir les empreintes digitales de Sophie. »
Il se leva, se mit à boutonner son manteau, abaissa son regard sur Armistone qui souriait.
« Il y a un certain nombre de faits déjà connus que j'aimerais vous signaler, » dit-il, « mais je ne le ferai pas.
Cela ne pourrait qu'entraver le bon fonctionnement de votre mécanisme psychique. »
Il laissa échapper un petit rire.
Il y eut un profond silence. Le feu craquait dans le foyer. D'un tic-tac monotone, l'horloge ancienne, à la place d'honneur, soulignait la marche du temps. Soudain, comme pour appeler à l'ordre les deux hommes, elle se mit à sonner l'heure. Tandis qu'elle égrenait les 12 coups de midi, une petite pendule ronde, dorée, s'éveilla sur la cheminée et joignit sa chanson à la sienne. Parr regarda sa montre, puis Armistone, à qui il adressa un sourire aimable. Oliver tripotait pensivement sa boucle grise. Le commissaire s'empara d'un nouveau cigare dans la boîte. Il savait maintenant qu'Armistone était déclenché.
Quelqu'un nous suit-il, William ? La petite veuve, bien abritée, eut presque un sourire engageant en posant cette question dans son acoustique.
« Le mécanicien en face, madame, » répondit William du coin de sa bouche sans remuer les lèvres. Le fidèle guetteur précisa que le mécanicien à cheveux roux allait à pied cette fois. Il passe en ce moment sous le cigare rouge de l'enseigne. « Ne conduisez pas trop vite, » commanda la femme en deuil. « Je ne veux pas qu'il s'essouffle. »
Sans se douter qu'il était l'objet de tant de prévenances de la part de sa veuve, le mécanicien roux ralentit brusquement l'allure. Il venait de trouver un intérêt irrésistible à la contemplation des vitrines de magasins, et en particulier à celle des magasins de pneus réchappés si nombreux dans ce quartier. Il eut vite fait de trouver ce qu'il cherchait, car il entra dans une boutique et Mrs. Huntington ne le revit plus ce matin-là. Mais dans l'après-midi qui suivit, au moment de tourner dans Park Avenue, à cette heure brumeuse du crépuscule hivernal où les réverbères s'éveillent en clignotant et où de somptueuses limousines se meuvent, moyeux contre moyeux, en deux marées opposées, elle l'aperçut à nouveau dans son miroir indiscret. L'attelage fringant de Mrs. Huntington s'était arrêté au coin de l'avenue, prêt à repartir au signal avec la file des voitures, lorsque le mécanicien roux, qui essayait une autre voiture malade, vint se ranger juste derrière, son pare-choc touchant presque les roues du coupé de la dame. Dans le miroir, la veuve reconnut immédiatement, rien que sa physionomie, la profession et les intentions de l'homme. La police, aucun doute là-dessus. À ce moment, le flot qui s'écoulait dans l'avenue se brisa en deux pour laisser le passage à un flot perpendiculaire de véhicules. William leva son fouet d'un geste élégant. L'attelage bien stylé s'ébranla souplement et le coupé prit sa place dans la procession. Derrière, on entendait le bruit du moteur.
« Attention, William, montrez-vous à la hauteur !» recommanda la dame.
« Il est parti, madame, vers le centre, » avoua William, inconsolable. Soudain, Sophie Lang fut en état d'alerte. Comme un vieux renard usé qui a passé son temps à gratter ses puces en attendant que les chiens reviennent à portée de voix, Sophie rassemblait maintenant toutes ses facultés, consciente du frisson agréable qui lui parcourait la peau. Elle huma l'air pour sentir l'odeur révélatrice. Elle dressa une oreille comme pour entendre les aboiements éloignés de la meute. L'attente avait été longue. Des années d'ennuyeuse respectabilité avec un terne mari.
Les maris en tant que tels n'avaient jamais beaucoup attiré, Sophie.
L'avez-vous vu passer la consigne à quelqu'un, William ?
Non, William n'avait rien vu.
Sans aucun doute, la consigne, elle retombait inconsciemment dans l'argot du métier, avait été passée. Ce n'était pas une coïncidence que le mécanicien roux trouva toujours une course à faire dans la même direction qu'elle depuis quelques jours, quel que fût le lieu où elle se rendait. Ce n'était pas non plus une coïncidence qu'il cessa de s'intéresser à elle avant qu'elle eût fait 800 mètres dans les grandes artères. Il la pistait en relais. Sophie se rengorgea. C'était presque de la subtilité de la part de la police. Elle méritait bien cela. Sa dignité l'exigeait. Elle rit doucement. C'était pour ainsi dire la première fois qu'elle se permettait de trouver quelque chose d'amusant depuis son veuvage. Mais aussitôt, elle referma ses jolies lèvres sur ses jolies dents. Du coin de ses grands yeux, elle examina ses voisins dans la procession. Elle savait que l'un d'eux devait être attaché à ses talons comme une ombre à midi. Mais tous les visages qu'elle apercevait étaient anonymes et sans expression. Elle fit appel à tous les tours qu'elle avait dans son sac l'un après l'autre. Comme le vieux renard rusé qui double sa piste, revient sur ses pas, marche sur la terre, passe dans l'eau, foule le bois mort, mais sans résultat, à part la certitude qu'elle était filée. Lorsqu'à la fin de l'après-midi, elle regagna son domicile par des voies détournées, elle retrouva le mécanicien roux sur le trottoir de son garage, occupé à bricoler un autre moteur malade. Il ne leva même pas les yeux lorsque son coupé passa. À partir de ce moment, Mrs. Amos P. Huntington s'évanouit graduellement de la scène. L'apparence extérieure de la petite veuve surannée demeura, ses vêtements, sa manière de parler, son air de deuil. Mais intérieurement, c'était tout Sophie Lang. Pendant plusieurs jours, elle consacra son talent à déceler le moment exact où le mécanicien roux passait ses fonctions à un autre de ses anges gardiens, mais sans y parvenir. De quel art consommé cet autre faisait preuve ? C'était peut-être le grand par lui-même. Elle eut un frisson agréable à cette pensée, puis elle décida une manœuvre audacieuse. Un matin, après l'avoir enveloppé dans sa couverture en peau de taupe, William traversa la rue et alla trouver le mécanicien roux. avec cette curieuse condescendance qu'affectent les serviteurs de grandes maisons lorsqu'ils daignent adresser la parole à de simples artisans, il l'informa que sa maîtresse désirait lui parler. « Comment vous appelez-vous ? » demanda la petite veuve au mécanicien roux qui se tenait respectueusement, la casquette à la main, à la porte de sa voiture. « John Hanrahan, madame. « Je vous observe depuis quelque temps à votre insu, John, » lui dit-elle d'un ton aimable. Elle l'observait, se disant, et il eut le sentiment très net qu'elle et lui se comprenaient parfaitement, mais cette impression fut fugitive. « Vous allez entrer à mon service, » lui annonça-t-elle comme si elle lui faisait une faveur inappréciable. Sans même attendre sa réponse, elle lui dit qu'il allait partir avec William afin d'aller lui chercher une auto qu'elle venait d'acheter. Elle renonçait à son coupé parce que les pavés étaient trop durs au pied des chevaux. William devait également emmener John chez le tailleur pour lui commander une livrée, le tout agrémenté d'un gracieux sourire. Elle complimenta même John sur son allure. Le port martial de John était le résultat de l'école de culture physique de la police. La veuve parlait avec un petit filet de voix qui se brisait parfois. Et alors, elle fermait les yeux en soupirant. Il aurait vraiment fallu que le rouquin eut un cœur de pierre pour refuser. Sans compter que cette transaction présentait un côté humoristique qui en faisait l'attrait suprême. Quelques jours plus tard, par lui-même, retenu à un carrefour très passant par un de ses propres agents affectés à la circulation, eut l'amère satisfaction de voir Sophie et son mécanicien roux faire une petite promenade en ville. La voiture neuve était tout aussi parfaite dans son genre que l'avait été le fringant attelage. C'était une voiture de maître importée de France. Aucun pays ne peut rivaliser avec la France pour ce genre d'article. Le moteur était placé dans un éblouissant écrin à l'avant. Sophie était enfermée dans une somptueuse boîte à bonbons à l'arrière, et enfin, exposé aux regards et aux intempéries comme s'il était le seul être vivant à bord, l'homme de part apparaissait juché sur un siège étroit placé là-haut comme un cabestan sur le pont nu d'un navire. Part ne put réprimer un ricanement. Transformer son agent en Watman, c'était tellement Sophie. Extérieurement, la veuve en porcelaine de Saxe, ou ce qu'il en restait à l'usage du commun des mortels, ne variait pas d'un iota ses habitudes. Mais chez elle et dans la rue, ses yeux ne cessaient de s'agiter comme des navettes derrière l'écran de ses longs cils. Il ne fallut que quelques jours pour détecter les frères de meute du mécanicien roux. L'homme au derby brun, qui mâchait sans cesse son cigare froid, le chauffeur de taxi à la barbe mangée par les mites qui stationnaient à la lisière de l'avenue. Elle ne les obligeait jamais à presser le pas, ne cherchait jamais à les semer. C'étaient des individus inoffensifs, sains et stupides comme le rouquin sur son siège, de simples limiers, suivant aveuglément une piste. Mais elle aurait voulu jeter un coup d'œil sur les chasseurs qui les faisaient travailler. Le système d'espionnage était parfait, mais aucune intelligence ne l'animait. Cependant, le sixième sens de Sophie lui disait que sa vie quotidienne était circonscrite comme l'est une étendue d'océan par un ciel sans nuages. Le véritable meneur de jeu ne s'était pas encore révélé. Quelques coups devaient se tramer. Elle examinait subrepticement les verrous, les serrures, les barreaux, les portes, les rebords des fenêtres, les surfaces peintes, pour y chercher des marques révélatrices. En train de traverser son boudoir, elle s'arrêtait doucement, tous les sens en alerte, comme si, au cœur de sa retraite, quelque danger la menaçait, se préparait à la frapper. Elle se servait de son téléphone avec un grand luxe de précaution. Bien entendu, ils avaient branché un écouteur sur la ligne. Lorsqu'elle venait de s'en servir, elle posait doucement l'appareil, puis le reprenait instantanément et écoutait pendant de longues minutes. On entendait toutes sortes de voix, sans corps, inarticulées, lointaines, tourbillonnant en un brouhaha incessant. Rien à l'autre bout du fil, il fallait une patience d'ange. Et tout à coup, quelqu'un se mettait à bâiller sans se gêner par trois fois et disait d'une voix paresseuse « Mon Dieu, mon Dieu !» Et Sophie s'adressait un sourire dans la glace, riant d'avoir surpris les flics en train de l'espionner. Dans son esprit agile, un tableau s'esquissait. Une grande pièce nue, un homme nonchalant en uniforme bleu, avec un casque sur les oreilles assis devant un bureau, une oreille de la police, greffée sur son fil téléphonique, toujours attentive. Un jour, Sophie fut récompensée de son attente en entendant une porte s'ouvrir dans cette pièce indécise, puis un bruit de pas, puis un murmure de voix prudente. Puis ce fut le tic-tac d'un mouvement d'horlogerie, de deux mouvements d'horlogerie pour être exact, qui l'amusa plus que tout.
ce stupide flic était assez bête pour rester devant un microphone à retenir sa respiration avec une horloge bruyante tout près de soi. Sophie compta mal son rire.
Pendant ce temps, notre ami Parr, le commissaire adjoint, qui avait pris en main l'affaire Sophie Lang à l'apogée de sa carrière, était d'une humeur massacrante. Il y avait maintenant 4 semaines qu'il tendait ses filets. Chaque jour, la moisson habituelle de dénonciations s'amoncelait sur son bureau. Menottes au poing, les canailles trahies par leurs amis prenaient le chemin de la prison aussi inévitablement que l'eau de pluie retourne à l'océan. Mais les fleuves se jettent dans la mer, et le niveau de la mer n'en monte pas pour autant. Et de même, Parr avait conscience d'un vide douloureux. Il avait la sensation désagréable que l'on se moquait de lui.
« Cette sacrée affaire est au point mort, » bougonna-t-il en s'installant dans son fauteuil préféré, devant le bureau d'Armiston.
Armiston ne répondit pas. L'affaire n'était pas au point mort quant à lui. C'était plutôt le facteur temps qui était entré en jeu. La suite du drame était en train de s'écrire toute seule, comme il disait dans son jargon professionnel. Du bout de ses doigts clairvoyants, il avait frappé les touches divinatrices de sa fidèle machine à écrire. Le drame figé que Parr avait déposé au pied du sorcier avait pris vie. Les personnages avaient poursuivi leur action vers le dénouement inéluctable. Ayant écrit le mot fin sur la dernière page, Armiston avait refermé sa machine et fait ses bagages pour Lakewood, mais avant de partir, il avait attendu la visite de Parr. Se calant dans son fauteuil, Armiston tripota négligemment un ampèremètre branché sur quelques circuits électriques. L'horloge antique faisait tic-tac, le feu craquait, et Parr regardait méchamment le Bouddha obèse toujours dans son coin. Le silence n'embarrassait pas Oliver. En fait, il avait observé que si l'on savait prolonger le silence un certain temps, l'interlocuteur finissait par dire quelque chose d'intéressant. Mais Parr semblait avoir perdu sa langue. Comme s'il était fatigué d'attendre que les vivants donnassent signe de vie, l'aiguille de l'ampèremètre bougea et se déplaça spontanément jusqu'au milieu de son cadran. Elle resta là. On l'aurait dit attentive à un événement d'importance. Réprimant un bâillement, Armiston reposa l'ampèremètre et prit le téléphone. Il s'appuyait sur un coude, surveillant son ami Parr.
« Sale boulot » marmonna-t-il après une longue attente.
Parr fit oui de la tête, gravement. « Parr !» dit brusquement Oliver par-dessus son téléphone. « Avez-vous fait un effort pour retrouver le mari? C'est lui qui l'a mouchardé naturellement. Je suppose que le pauvre diable en a assez de se cacher. » L'effet de ces paroles, ou plutôt de cet acte, sur le commissaire de police, fut foudroyant. Il allongea une main large comme celle d'un gorille et arracha le téléphone à l'emprise d'Oliver. « Était-elle au bout du fil ? » demanda-t-il. « Certainement, » dit Oliver, parfaitement à l'aise. Il montra l'aiguille tremblotant au milieu du cadran. Cette indiscrète aiguille se déplaçait chaque fois que l'on décrochait le téléphone au numéro 142. Pour les deux hommes, en ce moment, cette aiguille vacillante personnifiait la petite veuve elle-même, qui en ce moment devait redresser sa gracieuse tête en un vif mouvement de biche effrayée. « Ainsi, vous lui mettez la puce à l'oreille, à mon nez et à ma barbe, hein ?» grogna hargneusement Parr. La tempête qui venait de se lever dans son crâne lui donnait un air de férocité simiesque. Son énorme main se referma sur l'épaule de l'écrivain évanescent. Oliver sentit presque ses os craquer. Il grinça des dents, mais continua à observer l'aiguille révélatrice sur son bureau. Ce fut l'aiguille elle-même qui, sur ses entrefaites, vint à son secours. Tout à coup, comme lâchée par une force invisible, elle remint à zéro sur le cadran gradué. C'était aussi significatif que le craquement d'une brindille sèche dans la forêt. Le gibier se retirait furtivement. Parr resta assis un instant encore, ses yeux dans les yeux d'Oliver. Puis il enfonça son chapeau sur sa tête et se précipita dehors, comme s'il avait eu le diable en personne à ses trousses. Pendant que le train pour Lakewood se frayait un chemin sur les ponts basculants qui enjambent les estuaires de la baie de Newark, la veuve en porcelaine de Saxe roulait par monde et par beau dans sa voiture de maître. Elle se rendait à Bayham, un petit lac au milieu des collines, où ses élégants dacnés, dans un doux farniente, faisaient leurs poils d'hiver et remettaient leurs sabots à neuf. Sous l'impulsion du moment, ce matin-là, elle avait brusquement pensé à ses chevaux bien-aimés, s'accusant de les avoir abandonnés. C'était, comme toujours, l'honnête John Harahan, le mécanicien roux, qui la conduisait. À quelque distance derrière eux, visible de temps à autre, lorsque la voiture arrivait en haut d'une côte, suivait l'homme au derby brun, qui d'ailleurs avait, en la circonstance, troqué son derby pour une casquette,
jeté son cigare froid et fait l'acquisition d'une moustache. La vie était devenue un lit d'épines pour le mécanicien roux. Être ainsi perché bien en vue sur son siège, sous la surveillance de la veuve, n'était pas du tout l'idée qu'il se faisait du rôle d'un détective, et il commençait à avoir des doutes sur l'infaillibilité de son chef, tant l'affaire avait peu avancé depuis 4 semaines. Il ne se doutait pas que ce matin-là, au terme de son voyage, le paradis l'attendait. En effet, dans la cuisine de la ferme, tandis qu'il était plongé en d'amères méditations, une petite bonne française, accorte et rondelette comme un fragonard, apparut, juchée sur de hauts talons qui donnaient à sa démarche un balancement de caniche. Sous l'œil ahuri de John, elle se regarda dans un miroir et se mit à répéter ces scènes de coquetterie que lui, dans sa candeur naïve, avait toujours cru spontanées, quand elles sont jouées avec un mâle partenaire sans défense. Apercevant le mécanicien, elle s'approcha de lui, s'assit sur le banc et le poussa d'une secousse pour qu'il bougeât un peu, mais pas trop. Elle mit les mains dans les poches de son tablier de dentelle, le regarda à travers ses longs cils, puis tous deux fixèrent la huche à bois avec un sourire heureux. Une heure plus tard, lorsque la dame demanda sa voiture, le mécanicien roux, élevé à la ville, avait perdu tout préjugé défavorable sur les plaisirs de la campagne. Tout en aidant sa maîtresse à monter, la petite bonne pressa effrontément sa main minuscule dans la grosse patte de John, et lorsque l'auto démarra et franchit la porte du domaine pour reprendre la route de New York, elle envoya un baiser au limier touché par la grâce. Dans West Broadway, parmi les fabriques de spaghettis et les marchands de cordage aux vitrines toujours sales, les trains aériens ne cessent jour et nuit de rouler bruyamment au niveau des étages supérieurs des immeubles où la vie se déroule sans rideaux. Un homme vêtu d'un uniforme râpé, avec une casquette à galons dorés et un numéro brodé, insigne de ses fonctions d'employé du métro aérien, examinait, les unes après les autres, les portes des maisons, levant par moments les yeux vers les fenêtres les plus élevées. Finalement, il s'arrêta à l'entrée d'un couloir délabré et sonna. Une volumineuse sicilienne, portant un bébé en bas âge, vint lui ouvrir. Elle n'arriva pas à comprendre ce qu'il voulait, mais d'un geste de l'épaule, elle lui fit signe qu'il pouvait aller et venir librement dans la maison. Le fonctionnaire monta un escalier grinçant, et après avoir hésité, choisit une porte et frappa d'un coup sec. Il attendit, bouche bée d'inquiétude, puis il se remit à frapper, par intervalles, toujours plus fort. D'autres portes s'ouvrirent, et les têtes curieuses et ébouriffées apparurent penchées sur la rampe, mais la porte à laquelle il s'était attaqué ne réagit pas. Il redescendit l'escalier 4 à 4 et alla trouver un policeman au carrefour le plus proche. « Qu'est-ce que c'est ? » dit l'agent en inclinant sa tête pour l'écouter. Il prêta une plus grande attention au flot d'explications volubiles de l'employé de métro. Ils traversèrent ensemble la rue, attirant dans leur sillage quelques flâneurs intrigués. « C'est ici, » dit l'employé. Il fit s'arrêter le policeman et lui montra du doigt une fenêtre à travers les croisillons de la charpente métallique du métro. « Je crois que l'homme est mort. Il est assis là depuis 36 heures. D'abord, il lisait un journal, mais plus maintenant. » Poursuivant ses explications, il dit qu'il était passé et repassé devant ce visage au cours de ses services de jour et de nuit dans les trains. Finalement, il en avait été si agacé qu'il était venu à pied pour en avoir le cœur net. Il ajouta que cette face immobile l'avait poursuivi jusque dans son sommeil. Mais le policeman se fraya un chemin jusqu'à la maison et monta l'escalier. La foule s'amassait déjà devant l'entrée comme un essaim d'abeilles. Il appuya son épaule contre la porte et l'enfonça. Le bois vola en éclats sans opposer de résistance. L'homme était mort, tout à fait mort. L'agent ouvrit la fenêtre malpropre et donna un coup de sifflet. Il ne prêtait plus la moindre attention au cadavre assis dans sa chaise. Peu après, d'autres policemen arrivèrent en courant. Ensuite, un fourgon noir s'arrêta à la porte de l'immeuble et emporta l'homme à la chaise, enveloppé dans une couverture de cheval. Un autre fourgon emmena la Sicilienne obèse, son bébé, et plusieurs autres locataires de la maison, tous terrifiés. Ils dirent que l'homme logeait là depuis plusieurs mois, qu'il était pauvre, oui, très pauvre, qu'il s'asseyait souvent à cette fenêtre, qu'il y passait des heures, qu'il restait même parfois toute la journée. Recevait-il des visites d'amis? Personne n'aurait su le dire. Le monde entier pouvait monter et descendre cet escalier sale sans que personne s'en préoccupât. Les voitures démarrèrent, les gens se dispersèrent, et au bout de 5 minutes, tout était oublié. Dans les boutiques de prêteurs sur gage, Les clients timorés sont intimidés bien davantage s'ils sentent le regard d'un homme puissamment charpenté qui se trouve à un bout du comptoir, fume son ratin cigare, et les surveille pendant qu'ils supplient et marchandent. Ils le seraient encore plus s'ils savaient qu'il s'agit de l'un des plus fins limiers de part. De même, dans le petit bâtiment, au bord du fleuve, au coin de la 26e rue Est, là où des fourgons noirs s'arrêtent toutes les heures pour déposer les colis enveloppés d'une couverture de cheval, un autre homme, copié sur le même modèle et qui fume un cigare semblable, surveille les allées et venues avec autant d'attention nonchalante que son collègue de la boutique de prêteurs sur gage. Ici, l'on rassemble les âmes défuntes. Elles doivent être inspectées, suspectées, comme n'importe quel autre objet offert en gage. Anxieux, des frères, des mères et des amis viennent les passer en revue. Un employé tire de grands tiroirs, les uns après les autres, aux fins de reconnaissance. Parfois, l'un des membres de la famille pousse un cri. La macabre recherche est terminée. Dehors, les croque-morts, comme des mouches, se jettent sur celui qui sort pour lui offrir leur service. Un homme bâti en force, visiblement un maçon qui était venu dès la sortie de son travail, parla à voix basse à l'employé en tremblant d'émotion. L'employé l'écouta et hocha la tête. Il savait. Oui, c'était ici. Et il tira un tiroir. Le maçon inclina la tête, se frottant les yeux d'une main abîmée par la chaux. « C'est mon frère, » dit-il. L'employé fit une grimace par-dessus son épaule, et l'homme au cigare s'approcha et considéra le maçon d'un œil chassieux. Il prit son carnet et parla à voix basse au maçon, lui posant des questions et notant les réponses. « Tout sera vérifié, naturellement, » dit le policier, sans aucune hostilité dans la voix. « Autrement, n'importe qui pourrait venir ici et choisir le cadavre qui lui plaît. Mais pourquoi faire ?» demanda le maçon, qui semblait horrifié à la pensée que quelqu'un puisse avoir besoin d'un mort et venir à la morgue en chercher un à son goût. Le policier expliqua qu'il ne pouvait pas dire pourquoi, que c'était le règlement, que la chose s'était déjà produite et qu'il fallait être prudent. Le maçon montra sa carte syndicale et d'autres papiers pour prouver son identité. Dehors, les croque-morts avaient été prévenus. Ces macabres parasites attendaient le maçon, lequel en choisit un d'un air bourru. L'homme le conduisit triomphalement à sa boutique toute proche. Le lendemain, le cortège funèbre quitta l'institut médico-légal. Le pauvre ouvrier avait bien fait les choses, dans la mesure de ses moyens. Il y avait quatre voitures. Dans la première avait pris place l'unique membre de la famille, le maçon. Les trois autres, tout rideau baissé, étaient vides. Sur le chemin du retour, le policier au cigare s'approcha de la première voiture et dit qu'il y avait encore des papiers à signer pour les archives. Lorsque le maçon descendit, il leva les yeux et vit qu'il se trouvait devant un grand édifice avec un porche à portique et deux tours massives en briques rouges. Il eut un recul involontaire, mais l'homme au cigare le prit au collet. « Reste tranquille et fais pas le méchant, » dit-il aimablement. Il fit gravir à l'homme en deuil les marches de pierre, traverser plusieurs couloirs et entrer dans une grande pièce où quelqu'un était assis à un bureau. C'était le commissaire adjoint Parr. « Ah, enfin !» dit Parr en levant les yeux. Le maçon esquissa un geste vers la porte, comme un animal traqué. Il respirait difficilement. Sophie a presque réussi à s'en tirer, en se débarrassant du vieux forban avec de l'arsenic, dit Parr, et en nous remettant le cadavre pour que nous le rendions à la première personne qui voudrait l'identifier. Tu pensais que tu ne courrais aucun risque, hein, William? Car c'était bien William, le valet de pied, un William légèrement revu et corrigé, grâce à quelques touches qui le transformaient en un maçon plausible. Mais William, quand même, il avait du mal à avaler sa salive. « Approche, que je te regarde un peu, » commanda Parr. L'homme obéit d'un air maussade. Parr lui montra un presse-papier de verre sur son bureau. « As-tu déjà vu ça ?»« Réponds, » grogna-t-il avec une férocité soudaine. William regarda Parr, puis le presse-papier, puis Parr, mais il garda le silence. « À quoi donc a pensé Amos P. Huntington, il y a 12 ans, de laisser ses empreintes sur ce presse-papier ?» lors du meurtre de Park Place. Parr faisait allusion à un mystère resté célèbre dans les annales de la police. Mais ce n'était plus un mystère maintenant. L'homme trouvé mort sur sa chaise dans West Broadway avait les mêmes empreintes digitales. C'était pour cette raison que l'homme au cigare avait été si poli avec le maçon lorsqu'il était venu à la morgue pour accomplir sa triste mission. William ne répondit pas. Ses yeux erraient à travers la pièce. Ils évitaient de regarder l'objet dont ils craignaient la vue. « Qu'as-tu fait sauter dans ton laboratoire de caoutchouc, William ? Un panier de chat ou de chien ? Ou bien avais-tu emprunté un autre de tes frères 26e rue Est, Sophie a envoyé les restes à l'incinérateur si rapidement que nous n'avons pas pu y jeter un coup d'œil. »
Par se mit à rire, William en fit autant.
Par ce rire, il faisait comprendre à part que toutes ces questions resteraient sans réponse. À ce moment, la porte s'ouvrit et Armistone entra, une canne virevoltante à la main.
« Emmenez-le en bas !»
grogna Parr un planton.
« Qu'on l'arrête pour complicité dans le meurtre de John Doe, alias Amos P. Huntington. »
Armistone laissa tomber sa canne et recula instinctivement, dans un mouvement de frayeur si vrai que le policeman qui l'avait introduit l'empoigna, croyant que c'était lui l'assassin.
« Non, non, pas celui-là, l'autre !»
dit Parr en montrant William. Ses yeux pétillaient. Lorsque William eut été emmené, il dit à Armistone, non sans malice,
« Au fait, Armistone, c'est vous qu'on devrait inculper pour le dit motif.
Pourquoi ? Que se passe-t-il ? J'ai reçu votre télégramme et je suis venu tout droit.
Y a-t-il ? A-t-elle ?
Certainement,
répondit Parr.
Vous êtes prodigieux, Oliver,
ajouta-t-il en se frottant les mains d'aise.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer Sophie après son mari ?
Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait.
Armistone tenta, mais en vain, de placer un mot.
Vous saviez que Sophie nous écoutait au téléphone lorsque vous m'avez conseillé à haute voix de me mettre à la recherche de son mari,
qui l'avait dénoncé.
Sur le moment, j'ai cru que j'allais vous étrangler.
J'ai cru que vous vouliez me trahir auprès d'elle.
Et puis j'ai tout compris, comme ça.
Et il claqua les doigts pour illustrer cette soudaineté inhabituelle de son mécanisme mental.
Vous avez mis dans le mille, vous êtes prodigieux, Oliver.
Eh bien, c'est évidemment la chose à faire, reconnut Oliver, se rengorgeant. « Je savais que vous ne le trouveriez pas, lui.
Il fallait donc lui faire peur, à elle, et la lancer à ses trousses.
Vos hommes n'avaient plus qu'à le suivre à la piste,
et cela faisait un excellent dénouement pour l'histoire.
Vos hommes l'ont filé, bien entendu.
Eh bien, c'est-à-dire, fit Parr, plutôt gêné, elle ne nous a pas laissé le temps de souffler. Vous connaissez Sophie.
Alors, nous vous avons simplement attendu.
Attendu ?
Explosa Armistone.
Oui, Sophie a joué son rôle.
C'est bien par elle, indirectement, que nous avons trouvé l'homme, dit Parr.
Mais mort,
ajouta-t-il sinistrement.
Il raconta en quelques mots l'histoire du faux Amos P. Huntington, qui avait péri au cours de l'explosion de ce laboratoire de caoutchouc synthétique, qui avait été incinéré et qui finalement était mort pour de bon et avait été enterré de si anonyme façon que jamais la police n'aurait rien su, sans un détail qui avait échappé à Sophie.
Mon laveur de carreaux, un homme prodigieux aussi, avait réussi à emprunter un rasoir dans une petite valise contenant les effets personnels de feu Amos P. Huntington rassemblés par les soins de Sophie. Nous avions trouvé dessus les mêmes empreintes que sur ce presse-papier de verre que voici.
Quand le cadavre fut découvert par l'employé du métro, ces empreintes étaient identiques. Le reste ne fut plus qu'un jeu d'enfant.
Selon ma théorie, il a suffi de s'asseoir sur le seuil et d'attendre.
Et Parr, qui sans remords, avait laissé commettre le meurtre d'un assassin en ne surveillant pas Sophie de plus près, s'enfonça dans son fauteuil et déclara
« Oh, ils se font tous prendre, tôt ou tard.
Mais Sophie,
où elle se promène en ville en ce moment ?»
s'exclama Parr. « Ne bougez pas, vous allez la voir. » La veuve en porcelaine de Saxe avait décidé de faire prendre un peu l'air à son mécanicien roux. Dans la 42e rue, un policeman dit d'un ton bourru au chauffeur
« Rangez-vous le long du trottoir, jeune homme. »
Le mécanicien roux obéit avec empressement.
« Donne-moi tes clés, »
ordonna l'agent, et il ferma posément les portes de la voiture.
Désormais, Sophie ne pouvait plus s'échapper, sauf en brisant les glaces.
« Conduis-la au siège de la police, »
commanda l'agent. Parr et Oliver étaient toujours en train de causer lorsque Sophie fut annoncée. La gracieuse petite femme, enveloppée dans un nuage de crêpe noire, fit son entrée, pleurant, reniflant dans son mouchoir sous son voile de deuil.
« Lève le rideau, Sophie, tu as fait !»
dit Parr, avec, dans la voix, l'ivresse du triomphe. Elle souleva son voile, découvrant un visage ravagé par les larmes, d'une beauté pathétique. Parr se leva de son siège en jurant.
« Quelle est cette plaisanterie, Anne-Ran ? »
hurla-t-il à l'adresse du mécanicien roux.
« Plaisanterie, chef,
plaisanterie ?» protesta Anne-Ran.
« Regarde-la, triple idiot !» grogna l'adjoint. « Regarde ce que tu as amené ici. Une poupée de chiffon enveloppée de crêpes. »
La femme ouvrit les vannes à un véritable torrent de paroles.
« Je ne comprends pas, »
pleurnicha-t-elle avec un fort accent français.
« Je suis la bonne de Madame Huntington.
Elle déménage. Elle m'a envoyé à la ville il y a 3 ou 4 jours pour tout préparer. Elle déménage. Cet après-midi, je sors pour faire un tour et puis cet agent qui m'enferme. Je crie, je pleure, je frappe à la vitre, on m'amène ici. Cet homme qui me dit « Reste tranquille, ne fais pas la méchante. »
Anran se tenait la tête. Il revivait cet épisode dans la cuisine lorsqu'il avait trouvé la campagne si séduisante quelques jours plus tôt.
« Où avez-vous pris ces vêtements ?» demanda Pas rudement. « Madame, elle me les a donnés. Elle n'en veut plus. Moi, mon mari est mort. Il est mort.
Emmenez-la, rugit Pas. « Sous quelle inculpation ?» demanda Anran.
« Oh, n'importe quoi !»
aboya Pas.
« Aussi longtemps que les journaux ne s'empareront pas de l'affaire. Toi, un détective, toi, sur les traces de Sophie Lang !»
Lorsque la porte se fut refermée, ce fut Armiston qui rompit le silence.
« Après tout, dit-il rêveusement,
c'est bien un chef-d'œuvre accompli. Et accompli de main de maître, pas vrai, Pas ?» Ainsi finit l'affaire Sophie Lang. Bien sûr, le chef-d'œuvre n'était pas d'une perfection absolue. Il y avait William et la bonne et le quart de million de dollars qui lui échappaient.
Mais les sous-ordres se révélèrent de parfaits collaborateurs de la dame qui maintinrent jusqu'au bout leur complète ignorance de l'existence réelle d'une personne aussi purement légendaire que Sophie Lang.
Ainsi s'achève, de main de maître, par Frederick Irving Anderson.